Elles ont le parfum du mystère, la séduction de l'extraordinaire, le charme de l'impossible. Pénétrez avec moi dans l'univers des incroyables histoires. Le capitaine Harry Anderson de la police militaire américaine frissonne d'excitation. Quelle nouvelle merveille va-t-il découvrir dans la 117e caisse ? Deux soldats font sauter les scellés et bientôt un tableau d'une extraordinaire beauté apparaît dans la lueur crue des projecteurs. Les tons d'automne, les touches de blanc vibrant, le contre-jour mordoré électrisent le regard. Aucun doute n'est possible, Anderson est en présence du Christ et la femme adultère, le chef-d'œuvre de Vermeer. Professeur de dessin dans le civil, le jeune officier a eu tout le loisir d'étudier autrefois les reproductions du célèbre tableau. Cette scène étrange se déroule le 5 mai 1945, quelque part dans les Alpes autrichiennes. Après une traque de plusieurs mois et des dizaines d'interrogatoires de dignitaires nazifs et prisonniers, Anderson est parvenu à localiser le trésor du maréchal Göring. 200 caisses scellées contenant ce que le génie humain a produit de plus intense en matière de peinture entre le XVe et le XVIIIe siècle. Les deux dernières caisses recèlent les bordereaux attestant de la provenance des œuvres et les noms des négociants zélés qui les ont soustraites à leur patrimoine national. Anderson compulse frénétiquement les documents. Il ne tarde pas à découvrir que la toile de Vermeer a été cédée à Göring en 1942 par Anne Van Meegeren, peintre et marchand, en échange $1,600,000. Alors il est arrêté à Amsterdam quelques mois plus tard. Il n'oppose aucune résistance, se contentant de murmurer à l'oreille de l'officier qui lui passe les menottes « Vous faites erreur. Je n'ai pas trahi mon pays. Bien au contraire. J'ai protégé des chefs-d'œuvre hollandais au péril de ma vie. » Le policier lui décoche une bourrade. « Göring, Vermeer, le Christ et la femme adultère, ça vous dit quelque chose ?» Le visage de Van Meegeren s'éclaire d'un sourire complice. « Oui, naturellement. Mais en réalité, le tableau de Vermeer n'a jamais existé. » Faux, tous contrefaits et grossièrement imités, ricane le juge du tribunal d'Amsterdam en tripotant des liasses de billets de $100. Anne Van Meegeren écarquille les yeux devant la fortune de pacotille que le magistrat froisse par poignée avec jubilation. $1,600,000 de faux dollars. Göring vous a payé en monnaie de singe. Vous n'avez pas hésité à dépouiller votre pays d'une œuvre inestimable et aujourd'hui, vous risquez votre tête pour du papier tout juste bon à nettoyer vos bottes. Guidé par une brusque intuition, l'accusé se rengorge et éclate d'un rire forcé. « Mais, votre honneur, j'ai toujours su que cet argent était faux. Je n'ai d'ailleurs pas cherché à l'écouler pendant l'occupation. C'est moi qui ai grugé Göring. » Le juge abat son maillet avec colère. « Taisez-vous ! Vous insultez la cour ! Votre défense est pitoyable !» Tandis qu'un silence de glace tombe sur le tribunal et que les flashs des photographes crépitent, le magistrat chausse des lunettes et commence à lire la première page d'un épais dossier. « Vous êtes né le 10 octobre 1889, c'est bien ça ?»«
Oui. » »«
Vous avez fait des études à l'École des Beaux-Arts et obtenu en 1913 le premier prix de dessin avec une œuvre représentant l'intérieur de l'église Saint-Laurent à Rotterdam. Toujours exact ?»«
Oui, votre honneur. » »«
Une œuvre de jeunesse que vous avez habilement négociée, si j'en crois les informations fournies par la police. Le sens des affaires, déjà, hein ?»
Van Meegeren se redresse dans le box. « J'ai vendu une copie de mon dessin. » Je ne voulais pas me défaire de l'original, qui était excellent.
Aviez-vous informé votre client qu'il vous achetait un fac-similé ?
Non.
Abus de confiance. Ah, un bon début de carrière. Alors je poursuis. Après avoir épousé Anna de Vogt, vous faites quelques expositions à La Haye, et puis vous vivotez en donnant des cours de dessin. Le prévenu se lève d'un bond rouge d'indignation.
Vivoter, vivoter, comment osez-vous ?
Van Gogh, lui-même vivoter. Vous n'avez pas la moindre idée de mon talent.
Je suis un grand peintre, méconnu, un artiste de génie. » La salle s'esclave bruyamment. Le juge martèle son pupitre. « Asseyez-vous et épargnez-moi vos commentaires. » Je disais donc que lassé de la vie misérable que vous lui offrez et de votre propension à user de narcotiques, votre épouse vous quitte en 1923. Vous éclipsez alors pendant quelques mois en Italie et vous en rapportez un tableau de Vermeer intitulé « Le Christ et les pèlerins d'Emmaüs » que vous vendez pour la somme de 174 000 $ au musée de Rotterdam. Cette découverte miraculeuse qui vous enrichit du jour au lendemain mérite explication. Eh bien, une famille ruinée de la noblesse italienne m'avait chargé à Florence de la transaction. Le tableau a été expertisé, reconnu authentique par le docteur Bredius, qui, comme vous le savez sans doute, est un spécialiste de Vermeer, mondialement reconnu. Je n'ai rien à ajouter. Je n'insiste pas. Je note simplement que, sur les 36 toiles de Vermeer répertoriées à ce jour, au moins deux d'entre elles vous sont passées entre les mains. Vous êtes un homme extrêmement chanceux, monsieur Van Meegeren. C'est possible. Bien. Revenons-en à l'objet de ce procès. Je me permets de vous rappeler que si le jury vous reconnaît coupable de collaboration avec l'occupant nazi et de recel du patrimoine national, vous encourez la peine capitale. Je n'ai rien à me reprocher. C'est entendu. Pourtant, en 1942, vous contactez le maréchal Göring et lui offrez contre 30 kilos de faux billets, le public s'esclave à nouveau, un chef-d'œuvre de Vermeer surgit d'on ne sait où. Il a surgi de mes mains, votre honneur. Le magistrat s'impatiente. Répondez à la question. Comment ce tableau est-il arrivé entre vos mains? Le tableau n'est pas arrivé entre mes mains. Il a surgi de mes mains, votre honneur. Car c'est moi qui l'ai peint. Le juge donne du maillet à tour de bras pour apaiser la rumeur qui s'amplifie. Puis, ulcéré, il pointe un doigt tremblant en direction de l'accusé. Cessez de vous payer ma tête! Quoi que vous puissiez encore inventer, vous n'échapperez pas à la corde. Han van Meegeren attend que le silence retombe, puis il regarde le magistrat droit dans les yeux. J'ai peint le Christ et la femme adultère, votre honneur, et je peux le prouver. Et comment, je vous prie? En peignant un autre Vermeer devant vous. Un tableau que vous soumettrez à l'expertise du docteur Bredius, qui, j'en suis certain, confirmera son authenticité. Le juge hoquette. Vous sous-entendez que le Christ chez les pèlerins d'Emmaüs, la toile exposée au musée de Rotterdam, et que vous prétendez avoir rapporté d'Italie, et est-elle aussi un faux, votre honneur? J'en suis l'auteur. Tout comme j'ai peint le tableau vendu à Göring, tout comme, si vous me l'autorisez, je peindrai sous vos yeux un troisième chef-d'œuvre. La séance est levée, hurle le juge, en bondissant hors de son fauteuil. Mais laissons passer une page de publicité.
Pierre Bellemare sur RTL.
Dans la requête qu'il adresse au ministère de la Justice, le juge Honecker demande l'autorisation de transférer le prisonnier de la prison d'Amsterdam à un atelier d'artistes de la ville. Là, sous la garde de trois policiers et d'un conservateur de musée, celui qui se prétend faussaire de génie devra exécuter un tableau à la manière de Vermeer. Une œuvre parfaite, capable de tromper le jugement des meilleurs experts européens. Comme la vie d'un homme est l'enjeu de cet incroyable défi, le ministère accepte. Des académiciens, des professeurs définissent le thème à illustrer et les dimensions du tableau. Ils optent pour un Christ jeune de taille réduite, tel que le maître de Delphes les affectionnait. Pour réaliser ces faux précédents, Van Meegeren avait fait l'acquisition auprès d'un antiquaire d'un petit lot de croûtes, des toiles médiocres, dont le seul intérêt était d'avoir été confectionnées à l'époque de Vermeer. Après les avoir soigneusement décapées pour les utiliser comme support, il s'était livré pendant 4 ans à des essais sur les huiles, les brosses et les couleurs. La cuisson au four des surfaces peintes lui avait demandé un travail acharné, et en roulant la toile achevée d'une manière particulière, il était parvenu à reproduire les craquelures caractéristiques des œuvres flamandes du XVIIe siècle. La longue expérimentation de ces techniques complexes permet aujourd'hui à Van Meegeren d'exécuter à la perfection son Christ jeune. Seuls, les personnages posent problème. Comme il est hors de question de mettre à la disposition du prisonnier des modèles vivants, un photographe est chargé de réaliser une trentaine de clichés de jeunes policiers affublés de draperies et de perruques. La presse, focalisée sur l'événement, rend compte chaque semaine de l'avancement de l'œuvre. Les experts, tout d'abord incrédules, doivent bientôt se rendre à l'évidence. Le tour de main du faussaire, la sensibilité de sa touche, son art consommé des pigments et le rendu des personnages l'apparentent au génial Vermeer. 4 mois plus tard, quand le tableau est terminé, le docteur Bredius, un expert du musée du Louvre et un autre du British Museum, rendent leur verdict. En se fondant sur la résistance des couleurs à l'alcool et aux autres solvants, sur la présence de blanc de céruse, sur l'examen radiographique et spectrographique des principales substances colorantes, tous trois constatent qu'il leur est impossible de détecter la supercherie. Rien ne leur permet de différencier l'œuvre à peine achevée d'un authentique Vermeer. Les chefs d'accusation sont aussitôt abandonnés. Le juge prononce une peine d'un an d'emprisonnement pour escroquerie et contrefaçon. Célèbre, assiégé de commandes, Anne van Meegeren meurt d'une attaque cardiaque à l'âge de 58 ans, le 30 décembre 1957, sans avoir eu le temps de profiter pleinement de sa gloire naissante. Il avait eu assez de virtuosité et de talent pour signer ses toiles Vermeer sans être démasqué. Mais pas assez de génie pour imposer son nom.
Jusqu'à 13h30, Pierre Bellemare est sur RTL.
Monsieur et Madame Jones ont tout du couple d'Américains moyens. Lui à la soixantaine, un peu dépassé. Elle, presque la soixantaine. Ils vivent seuls, après avoir élevé leurs enfants dans un pavillon de Templeton, petite ville de Californie. Comme les Américains moyens, ils ont un chien, une voiture, ils sont très liés avec leurs voisins. Et comme les Américains moyens, leur distraction préférée est la télévision. Justement, ce 15 avril 1958, Monsieur et Madame Jones s'apprêtent à vivre un petit événement, la naissance d'une nouvelle chaîne. Jusque-là, Templeton recevait les trois programmes nationaux, mais ne bénéficiait pas, comme presque partout aux États-Unis, d'une station locale. Cette lacune va être maintenant comblée grâce à Geoffroy Smith, un riche industriel qui a réalisé les installations nécessaires. Il est 20h, c'est l'instant où la GST, la Geoffroy Smith Television, va émettre pour la première fois. Monsieur et Madame Jones ont réglé leur poste comme indiqué et assistent émerveillés au petit miracle. Après le générique d'ouverture, une charmante speakerine apparaît. « Bienvenue, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Avec la GST, c'est la bonne humeur qui entre dans votre maison. » Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Monsieur Jones vient de pousser un cri. En effet, tout à coup, le visage de la speakerine s'est monstrueusement aplati, tandis que sa voix n'émet plus que des cric-cric, on ne peut plus désagréable. Monsieur Jones se lève, pourvu que ce ne soit pas le poste. Mais non, c'est pas le poste. Les trois chaînes nationales que M. Jones met tour à tour fonctionnent parfaitement. En revanche, quand il revient sur la GST, c'est de nouveau la speakerine aplatie et la voix qui craque. M. Jones se dirige vers son téléphone. Enfin, c'est trop fort, je veux savoir ce qui se passe. Mais au numéro de la GST, il n'obtient qu'une standardiste affolée. Je vous en prie, monsieur, raccrochez, tout le monde appelle en même temps. C'est un incident technique sans gravité, tout va rentrer dans l'ordre. Monsieur Jones retourne en bougonnant à son fauteuil regarder une des trois chaînes nationales et n'y pense plus, de même que sa femme. Pourtant, ce qui vient de se passer à Templeton ce 15 avril 1958 est un événement absolument extraordinaire, qui ne s'était jamais produit auparavant et qui ne s'est jamais reproduit par la suite. Geoffroy Smith, avec son léger embonpoint, sa calvitie naissante et son cigare, est bien conforme à l'image qu'on se fait du businessman américain. Et c'est effectivement un personnage considérable. Officier dans les marines, héros de la guerre du Pacifique, il s'est lancé dans la politique en 1945 et il a été élu sénateur. Puis, il a préféré se tourner vers les affaires où il a réussi brillamment. Bref, il est habitué au succès dans tous les domaines. Et ce qui se passe en ce moment à Templeton est pour lui la première fausse note, au propre comme au figuré. Avec son sens aigu de la rentabilité, Geoffroy Smith avait repéré Templeton sur la carte des États-Unis, la seule région de forte densité à ne pas être équipée d'une télévision locale. Les contacts avec les annonceurs avaient été excellents, les installations techniques coûteuses devaient être amorties rapidement. Et voilà que toute la belle mécanique s'enraye d'une manière inexplicable. Oui, inexplicable est bien le mot, du moins jusqu'à présent. Au début, Geoffrey Smith a pensé à un radio amateur émettant sur la même fréquence. Il a promis par voie de presse une récompense de $500 pour tout renseignement et il a demandé au shérif de Templeton de s'occuper de l'affaire. Au bout d'une semaine, il a dû déchanter. La prime de $500 n'avait rien amené. Et le shérif est revenu lui avouer qu'il ne pouvait rien faire. Tout cela le dépassait. Il fallait les moyens techniques et les hommes du FBI. Alors les responsables du FBI ont tout de suite accédé à la demande de Geoffrey Smith. D'abord en raison du poids politique du personnage, mais aussi parce que tout ce qui touche les télécommunications peut être grave sur le plan national. C'est pourquoi ce 25 avril 1958, le lieutenant John Milton se trouve dans le bureau de la direction de la GST à Templeton. Donc, monsieur Smith, cette interférence se manifeste depuis 10 jours sans interruption. Oui, elle a lieu en ce moment. Geoffrey Smith se lève, se dirige vers un poste de télévision dans un coin du bureau. Vous allez voir, je fais diffuser jour et nuit une mire avec de la musique. Le lieutenant John Milton voit apparaître sur le téléviseur quelque chose de fort déplaisant. La mire, ou ce qui en tient lieu, elle fait très mal aux yeux. Ce sont des lignes flasques qui se déforment comme un liquide visqueux. Quant à la musique, c'est tout simplement insupportable. Une symphonie de craquements, de couinements, de grésillements. Geoffrey Smith arrête l'instrument de supplice. Voilà, vous avez vu. Le lieutenant Milton a vu et entendu. Alors il pose sa première question. Êtes-vous sûr que votre installation est au point, monsieur Smith ? Oui, j'ai engagé les meilleurs spécialistes des États-Unis. Tout marche parfaitement, les caméras, la technique, l'antenne. D'ailleurs, l'interférence n'a pas eu lieu dès que nous avons émis. Elle a commencé à 20h01, exactement. Vous pensez donc qu'il s'agit d'un brouillage volontaire et non d'un phénomène accidentel ? Exactement. Vous avez des ennemis, monsieur Smith ? J'ai fait de la politique. Je suis dans les affaires. Je vous laisse conclure. Mais ce n'est pas le principal ni le plus mystérieux dans cette affaire. Le plus important n'est pas de trouver qui fait cela, ni pourquoi, mais comment. Les spécialistes qui sont venus vérifier l'installation me l'ont dit. On ne brouille pas une station de télévision comme ça. Ce qu'ils ont vu ici, à Templeton, ne ressemble à rien. L'industriel se lève. Alors maintenant, vous savez tout, hein ? Bonne chance, lieutenant. Et le lieutenant John Milton se met au travail. Pendant un mois et demi, un, puis deux camions équipés de goniomètres parcourent la région. Des opérations de grande envergure ont eu lieu. Un dossier de plusieurs centaines de pages est constitué. Et l'heure du bilan finit par arriver. Le lieutenant Milton présente ses conclusions à Geoffrey Smith le 10 juillet 1958. Malheureusement, elles sont négatives sur toute la ligne. Rien, monsieur Smith, on ne peut rien dire. L'industriel regarde le policier sans indulgence. C'est que vous n'avez pas employé les moyens suffisants. Si ! Les goniomètres utilisés sont du dernier modèle. Bah alors expliquez-vous. Ainsi que vous le savez, un émetteur se localise grâce à son intensité. Plus on s'en approche, plus il est fort. Plus on s'en éloigne, plus il est faible. Bien ici, ce n'est pas le cas. L'interférence a exactement la même intensité dans un rayon de 40 000 autour du centre de Templeton. Ensuite seulement, elle diminue progressivement comme il est normal. Et c'est un phénomène qui n'avait jamais été constaté ? Jamais. C'est contraire à toutes les théories. Alors vous avez pensé à un émetteur mobile ? Bien sûr. Et nous avons même imaginé qu'une voiture émettrice suivait notre goniomètre en gardant une distance rigoureusement égale. Nous l'avons arrêté brutalement, nous l'avons fait zigzaguer, nous l'avons fait rouler à toute vitesse. À aucun moment, l'intensité de l'interférence n'a baissé ou n'a monté. Nous avons ensuite employé deux voitures goniomètres circulant en même temps à 10 000 de distance et suivant des parcours différents. Aucun doute. Dans un cercle de 40 miles autour de Templeton, l'intensité est rigoureusement constante, comme s'il y avait un émetteur tous les mètres. Le silence retombe dans le bureau de la direction de la GST. John Milton attend les réactions de son vis-à-vis. Celui-ci se lève et, sans un mot, va allumer le téléviseur du bureau. La mire infâme apparaît sur fond sonore de grincement de porte. La voix de Geoffrey Smith grince, elle aussi. « Eh bien, dans ces conditions, je vais me débrouiller tout seul. Adieu, lieutenant Minton. Le jour même, Geoffrey Smith fait publier une page dans la presse locale. Comme dans les affiches du temps du western, elle est surmontée du titre « On recherche ». L'individu recherché est l'auteur des interférences et la récompense est de 10 000 dollars. Geoffrey Smith a pensé que ce que la police n'avait pas réussi, l'argent l'obtiendrait. Car ce ne sont quand même pas les martiens qui l'empêchent d'émettre. Alors il attend. Mais en vain. Seuls se manifestent des plaisantins ou des illuminés. 2 août 1958. L'interférence dure depuis plus de 3 mois et demi. Geoffrey Smith a prévenu les autorités qu'il renoncerait définitivement à émettre le 15 août. Sur le plan financier, ce sera une perte massive. Aussi, en bonhomme d'affaires, il a fait une dernière tentative. Il a porté la prime à 25 000 dollars. Et cette fois, il y a un résultat. À 9 heures du soir, le téléphone sonne chez lui. Monsieur Smith, qui est là? Quelle importance! Vous voulez toujours que l'interférence cesse? Bah évidemment. Alors ce sera 100 000 dollars. Vous ne pensez tout de même pas que je me serais donné tout ce mal pour 25 000 dollars? Parce que c'est vous qui... Oui, oui. Branchez le téléviseur sur votre station, Monsieur Smith. Geoffrey Smith se lève, va tourner le bouton, mais il n'est pas seul à faire ce geste. Au même moment, John Milton, qui s'est fait installer une table d'écoute, fait la même chose dans sa chambre d'hôtel. Chez lui aussi, apparaît la mire flasque et la symphonie de grésillement. La voix du correspondant anonyme reprend dans les deux écouteurs. « Vous y êtes ?»« Oui. » Alors regardez bien. » Et le miracle se produit, aussi bien sur le téléviseur de Geoffrey Smith que sur celui du lieutenant Milton. D'un seul coup, la mire redevient impeccable, tandis que s'élève le son d'un orchestre symphonique. « Cela va durer 5 minutes, Monsieur Smith, après quoi l'interférence reprendra. Si vous voulez que cela cesse définitivement, versez l'argent au compte numéro 34, Banque nationale de Berne, Suisse. Au revoir, Monsieur Smith. » Geoffrey Smith, bien qu'il n'ait jamais voulu l'avouer, s'est certainement exécuté, car le lendemain 3 août, l'interférence cessait. Et le 15 août à 20h, les programmes de la Geoffrey Smith Television démarraient, cette fois sans incident, avec 4 mois de retard. Alors que s'est-il passé? Nous n'en sommes pas absolument certains. Mais voici, d'après plusieurs journalistes, ce qui est le plus proche de la vérité. Dans les semaines qui ont suivi, le FBI a enquêté avec acharnement sur toute l'étendue du territoire et a sans doute découvert la vérité, ou tout du moins une partie de la vérité. Un certain Jérôme Lindsay a disparu mystérieusement de son appartement new-yorkais début août. Or, Jérôme Lindsay, ingénieur en ondes de télévision, était également connu des services secrets. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait proposé au secrétariat à la guerre un projet intitulé « Études sur les équations rendant possible un système d'émission non localisable ». Le projet n'avait pas été retenu, mais la trace de son passage avait été notée sous la forme du titre, suivi d'une annotation du sous-secrétaire chargé des projets militaires « non réalisable ». Jérôme Lindsay est donc reparti avec son dossier sous le bras. L'a-t-il mis en pratique à Templeton? Et est-il reparti ensuite couler des jours heureux avec ses 100 000 dollars en Suisse ou ailleurs? Tout permet de le penser, même si aujourd'hui encore, on ne comprend pas comment il a pu réussir techniquement un tel prodige.